Guillaume Erner, vous êtes en salle de classe?
Exactement, en salle de classe avec des universitaires, des étudiants, car nous sommes en direct de Toulouse, de la Toulouse School of Economics, l'une des meilleures universités d'économie au monde, et nous allons recevoir le président de cette université, Jean Tirole, prix Nobel d'économie.
Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Bonjour Jean Tirole, merci beaucoup de nous accueillir à la Toulouse School of Economics.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions ainsi qu'aux questions de Marie Viennot, car vos interventions dans les médias sont rares. L'économie française semble malade. De quoi sommes-nous malades aujourd'hui, selon vous?
Je crois que la première question, c'est la question du chômage qui inquiète tous les Français. Nous sommes à une époque où il y a un alignement des planètes d'une certaine manière. Le pétrole est bas, l'euro est bas, les taux d'intérêt sont bas. Et donc on devrait avoir une bonne situation, une baisse du chômage. Alors qu'actuellement, on a encore une hausse du chômage, on a une politique de l'emploi qui coûte très cher aux deniers publics. Et donc, on a cette situation difficile à un moment où ça va empirer. C'est-à-dire qu'il y aura une mutation technologique avec le digital qui va supprimer les emplois. Il va y avoir les migrants. Les migrants sont une chance exceptionnelle pour notre pays, mais on va pas pouvoir en profiter parce qu'on ne saura pas leur offrir des emplois. Donc, il y a quand même un défi fondamental ici.
Un défi, est-ce que la réforme du droit du travail qui est en cours va, selon vous, dans le bon sens?
Alors cette réforme va un peu dans le bon sens, mais elle est très très timide, c'est-à-dire qu'il faudrait aller beaucoup plus loin. En particulier, le rapport Badinter hier a éliminé les grandes réformes, d'une certaine manière, a entériné le CDI, en disant, bon voilà, il faut rester au motif réel et sérieux. Donc tout l'apparatus qui existe de rigidité du CDI, va rester, ce qui veut dire aussi qu'on va garder les CDD tels qu'ils sont comme variable d'ajustement.
Pourquoi? Parce que c'est la flexibilité, selon vous, qui peut nous permettre d'en finir avec le chômage?
Alors, il faut une certaine flexibilité, c'est-à-dire que le juge ne peut pas se substituer au chef d'entreprise pour décider si un emploi est justifié ou non. Par contre, il faut responsabiliser le chef d'entreprise. Et c'est pour ça qu'Olivier Blanchard et moi-même avions proposé, et d'autres économistes, bien sûr, avions proposé un système de bonus-malus pour encourager les chefs d'entreprise à garder les salariés quand ils le peuvent. Actuellement, ils les gardent de façon contrainte, c'est-à-dire qu'ils ont une procédure de licenciement un peu aléatoire et très longue. Il faudrait faire ça de façon beaucoup plus simple par un système de bonus-malus.
C'est-à-dire qu'au terme de cette étude, vous aviez montré qu'il n'y avait pas de lien mécanique entre la flexibilité du marché du travail et le niveau de chômage dans un pays.
Alors, c'est vrai que quand on rigidifie le marché du travail, automatiquement, dans le court terme, on va avoir moins de licenciements. Mais à long terme, ça veut dire aussi que les entreprises n'embauchent plus, en tout cas n'embauchent plus en CDI. Et d'ailleurs, on voit actuellement que toutes les embauches sont en CDD.
Marie Viennot.
Alors, dans ce rapport, justement, que vous aviez rendu en 2003, dont vous venez de parler, vous proposiez donc de simplifier les procédures de licenciement pour que les entreprises s'adaptent à leur marché, mais vous proposiez aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, et vous en faisiez une condition sine qua non, que les entreprises paient le coût que leur licenciement impose à la collectivité et dédommagent l'assurance chômage. Alors, la première partie de votre proposition, elle est dans le débat public. La deuxième, beaucoup moins. Comment vous l'expliquez?
Alors, je crois qu'il faut d'abord expliquer la logique de tout ça. C'est-à-dire qu'il faut, comme je le disais tout à l'heure, responsabiliser l'entreprise. Et donc, quand une entreprise crée un chômeur en le licenciant, automatiquement, ça coûte quelque chose au chômeur. C'est pour ça qu'il y a des indemnités de licenciement. Mais ça coûte aussi quelque chose à l'assurance chômage. Et ça peut être une somme gigantesque, parfois. Et donc, l'idée, c'est de responsabiliser. Mais il est sûr qu'il y a des secteurs qui licencient plus que d'autres. Et automatiquement, ces secteurs qui licencient plus que les autres sont très réticents à avoir une taxe pour eux. Alors, je voudrais insister, ce n'est pas une taxe nouvelle, puisque c'est un bonus-malus. Le produit de la taxe, évidemment, servirait à réduire les cotisations sociales. Donc les entreprises vertueuses, en fait, y gagneraient.
Dans l'actualité, ce matin, Jean Tirole, il y a aussi la grève des taxis, une grève liée à l'apparition d'Uber et d'un certain nombre de systèmes numériques de ce type. Votre avis sur cette grève et sur l'évolution d'un secteur avec au cœur de ce problème la question de la concurrence?
Alors, je voudrais dire qu'on prend un peu le problème du mauvais côté, d'un mauvais angle en France. C'est-à-dire que je vais parler un petit peu du pour et du contre d'Uber. Le constat est clair, les taxis en France sont extrêmement chers, on les trouve pas le soir, aux heures de pointe. On pourrait créer beaucoup plus d'emplois en ouvrant la profession, donc il y a un potentiel. Et puis pour les consommateurs aussi, il faut bien dire que Uber et ses technologies ont fait des innovations qui sont très très simples, très mineures. la géolocalisation, le paiement par carte de crédit, qui d'ailleurs supprime la fraude, si on veut. La notation, par exemple, la tarification aux heures de pointe qui avait été introduite par EDF il y a 60 ans, n'oublions pas. Ce sont des innovations extrêmement mineures qui simplifient la vie du consommateur. Pourquoi le monopole ne l'avait pas fait avant? Dans aucun pays du monde, d'ailleurs, c'est pas seulement en France. C'est très intéressant à quoi sert la concurrence. La concurrence sert à innover, et parfois avec des innovations extrêmement simples. Alors maintenant, il faut effectivement accueillir ces nouvelles technologies. Il faut accueillir, faire baisser les prix, créer des emplois. Du côté des taxis, c'est un peu plus compliqué, évidemment, parce que les taxis disent il faut qu'il y ait égalité de concurrence. Et ça, ils ont tout à fait raison. Mais sait-on s'il y a égalité de concurrence? Moi, je n'en sais rien. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est de regarder combien les taxis paient de charges sociales et d'impôts et combien Uber ou d'autres paient de charges sociales et d'impôts, et comparer.
Donc, ce qui veut dire que là aussi, la concurrence, ça n'est pas la panacée, puisque bien souvent, on entend dire qu'il faut déréguler, et dès lors qu'on dérégule, eh bien, on avance vers une économie plus performante. Ça n'est pas ce que vous dites.
Alors, il faut que la concurrence soit armes égales, hein, bien sûr. Et cette concurrence, quand même, va permettre plus d'innovation. Ça permet des changements. Quoi. Je répète, quand même, ce monopole qui existe dans tous les pays du monde, des taxis, a généré très très peu d'innovation et des prix très très élevés. Donc il faut absolument changer ça. Maintenant, les taxis, je comprends aussi leur point de vue. C'est-à-dire que certains ont acheté des licences. D'ailleurs, ce qui est un petit peu scandaleux quand vous y réfléchissez, ça veut dire que la puissance publique a donné à des acteurs privés des actifs qui ont une très grande valeur, puisqu'il y a la rareté de ces licences. Et donc, certains taxis, je les comprends, disent « Mais attention, moi j'ai besoin de cet argent pour ma retraite, j'ai payé. » Donc ça, je comprends ce point de vue. Mais que ça empêche l'innovation, ça c'est très grave. Et l'emploi.
Jean Tirole, le numérique fait peser un certain nombre de risques sur différents secteurs de l'économie, depuis les taxis jusqu'à la librairie. Peut-on imaginer qu'une invention de ce type, qu'une technologie, paupérise des secteurs entiers de l'économie?
Alors, ça existait de tout temps que le progrès technologique finalement supprime des emplois et en crée d'autres. Donc il y a toujours création d'employeurs. Ça fait 200 ans qu'on annonce qu'il va y avoir du chômage parce qu'il y a du progrès technologique. Ce n'est pas le cas du tout. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ce qu'on observe, c'est actuellement déjà ce qu'on appelle une polarisation. C'est-à-dire qu'il y a des emplois extrêmement bien payés, puis à côté de ça, il y a des emplois de service qui sont moins bien payés. Donc ma crainte, effectivement, c'est que avec la numérisation, finalement, il y a beaucoup d'emplois qui soient créés, mais qui des emplois très mal payés. Donc il va falloir réfléchir à notre société. On va pas empêcher la numérisation, donc il faut s'y préparer. Et je pense qu'avec le marché du travail en France, on n'y est pas du tout préparé. Il va falloir aider les salariés, mais pas garder les emplois, sinon on va complètement bloquer le pays.
Alors comment faire?
Alors je pense déjà il faut faire les grandes réformes. C'est-à-dire qu'il faut d'une part, comme je le disais, faire une réforme du marché de l'emploi, parce que le monde change très vite, que ce soit dans la fonction publique ou dans le privé d'ailleurs. Hein, il va falloir faire des... Et ça va changer très vite avec effectivement des... Il va falloir s'y adapter, il va falloir protéger les salariés. Et pour ça, il faudra aussi remettre en ordre les finances publiques. Parce que un des grands dangers actuellement, puisqu'on n'arrête pas de s'endetter, je vous rappelle que ça fait quand même 40 ans qu'il y a un déficit budgétaire, même dans les bonnes périodes, et que la dette continue à croître, la dette sur le bilan et hors bilan est très grande en France maintenant. Donc il faut faire très très attention de pouvoir garder notre système social. Et c'est d'autant plus important que cette numérisation va encore compliquer la vie des gens.
Marie Viennot.
Le revenu de base, vous en pensez quoi, vous, puisque vous dites que les salaires vont être finalement très bas, les salaires
Ça va être un peu une question de société, là. C'est-à-dire que il y aura un pactole numérique. Alors il faudra qu'on touche ce pactole numérique. Il ne faut pas simplement que ça reste dans les pays comme les États-Unis qui font beaucoup de recherches et qui développent ces start-up. Il faut aussi que la France en profite, et on a les talents pour, donc c'est faisable. Mais même comme ça, il va falloir quand même qu'on ait effectivement de la redistribution et aider les gens à s'adapter à cela. Alors c'est très compliqué, parce qu'effectivement les gens, ils veulent aussi travailler, ils veulent pas simplement être aidés. On le voit bien, donc il y a une question aussi de dignité. Et donc ça va être une adaptation progressive. C'est très difficile à prévoir comment ça va se passer, mais il faut s'y préparer, ça c'est sûr.
Jean Tirole, discutez-vous avec des politiques?
Alors, quand un politique, un ministre ou des hauts fonctionnaires me demandent de venir, je suis heureux de discuter. Moi, j'essaie de rester un petit peu en dehors du débat politique. J'essaie de fournir des idées d'une certaine manière. C'est mon rôle en tant que chercheur de fournir ces idées. C'est pas mon rôle de me substituer aux politiques. Donc, Je suis heureux d'aider quand je peux.
Mais avez-vous l'impression que les politiques, dans leur lutte contre le chômage, écoutent les économistes? Alors, c'est un pluriel trompeur, mais déjà sur cette question.
Je crois qu'il faut que déjà que les Français réfléchissent aux questions économiques, déjà. Parce que le chômage, c'est tout à fait typique. On voit Emmanuel Macron qui essaie de faire des choses. Il fait beaucoup de pédagogie pour essayer de changer petit à petit. C'est lent. Mais il essaie de changer petit à petit la mentalité vis-à-vis des problèmes de réforme du marché du travail. Mais il faut aussi que les Français soient en faveur. Si les Français se bloquent et voient pas l'autre côté de la pièce, l'autre côté du miroir, c'est-à-dire que tous ces CDI qui ne sont pas créés, d'une certaine manière, ces CDD, ce chômage, cette dégradation des comptes publics, je crois que c'est très difficile pour les politiques de faire des grosses réformes.
Vous considérez-vous comme un économiste néoclassique ?
Alors je suis, je vous rappelle l'intitulé de mon prix Nobel, c'est effectivement la régulation pour rendre les marchés plus concurrentiels et plus au service de la société. Donc je suis quelqu'un qui cherche à comprendre comment réguler de façon efficace. Néoclassique, je ne sais pas.
D'inspiration libérale.
Libéral, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que libéral. Libéral, c'est pas du tout le laisser-faire. Libéral, c'est responsabiliser les gens. Donc la régulation est là pour responsabiliser les gens. Quand on le voit, par exemple, vis-à-vis du prix du carbone, on parlait du chômage aussi. Il faut responsabiliser les gens.
Marie Viennot.
Alors justement, je voulais revenir sur la COP21. Vous militez pour un prix du carbone, hein, c'est-à-dire le renchérissement de tous les produits liés au carbone. Est-ce que vous pensez que la baisse des cours du pétrole actuel, c'est une opportunité ou est-ce que c'est une catastrophe ?
Alors, la baisse a des bonnes raisons. Pour le pétrole baisse parce qu'il y a une question d'offre. Il y a le gaz de schiste, le pétrole de schiste. Et après, la demande qui est un peu... Il y a un ralentissement de la croissance. Il y a l'Arabie Saoudite qui, pour des raisons stratégiques, déverse son pétrole sur le marché. Oui, le pétrole est à moins de 30 dollars le baril.
Donc c'est l'inverse du prix carbone, en fait.
Ouais, alors, ça fait partie des ajustements de marché. Ce qui est grave, c'est qu'il n'y a pas de prix carbone. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un problème pour l'environnement. C'est-à-dire que les gens vont utiliser du carbone, ça va retarder les énergies renouvelables. Mais ce n'est pas le seul problème. Regardez le charbon actuellement. La COP21... C'est un succès diplomatique, mais personne, aucun pays, aucun gouvernement n'est rentré chez lui en disant il va falloir retrousser les manches. C'est simplement une promesse collective. Donc on est très très loin d'avoir résolu le problème. Il faut un prix du carbone et personne pour l'instant ne veut l'imposer. Et ce qu'on voit, c'est que le charbon est en train d'être développé un peu partout, en Inde, en Afrique du Sud. Même les États-Unis qui n'utilisent plus de charbon parce qu'ils ont du gaz de schiste, ils exportent leur charbon. La Chine, l'Australie, etc. Donc il y a un gros problème, c'est-à-dire qu'on va investir de plus en plus en charbon qui est extrêmement polluant. Je vous rappelle que le gaz qui est polluant pollue deux fois moins. Donc par exemple, dans un système intermédiaire, il va falloir utiliser le gaz. C'est incroyable qu'en Europe, on ferme des centrales à gaz, alors que d'autre part, on est en train de produire du charbon en Allemagne, etc., qui pollue énormément. Donc là, il y a un vrai sujet. C'est un sujet de nouveau qui a trait à la COP21 et qu'il va falloir mettre un prix du carbone indépendamment de la baisse du prix du pétrole, qui lui a ses propres raisons.
Jean Tirole, vous avez créé ici à Toulouse avec Jean-Jacques Lafont l'une des meilleures universités au monde d'économie. Cet exemple est-il réplicable en France à l'heure du classement de Shanghai, à l'heure où l'on se pose des questions sur la qualité de l'enseignement supérieur français ?
Alors pour ça, oui, c'est réplicable. Je pense qu'il faut effectivement une volonté de la part des chercheurs et puis de la part des universités, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même très accompagné par l'Université de Toulouse, pour essayer d'offrir un enseignement de qualité en université et puis aussi un environnement de recherche avec une gouvernance moderne. Et donc c'est cette gouvernance moderne, on connaît, on sait faire, donc c'est tout à fait réplicable.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va continuer à explorer la manière dont la Toulouse School of Economics peut donner des idées à la fois en économie, mais aussi sur le plan de l'enseignement supérieur, voir comment fonctionne cette université à Toulouse et quels principes peuvent en quelque sorte être généralisés à l'échelle de la France tout entière. Ce sera à 8h15 sur France Culture.